Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un fidèle ami des sociétés solidaires et fertiles prend place à nos côtés. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je m'appelle Antoine Dupuy, j'ai 42 ans bientôt. Je suis originaire de la région parisienne du sud-ouest, parcours basique jusqu'à arriver en cuisine à l'âge de 15 ans et demi. J'étais déjà passionné par les marmites de mes grands-mères. Du coup, je pense que j'étais dans une des meilleures écoles, entre guillemets, elle est ralliée à Ferrandi, elle s'appelait Tecoma à l'époque, une partie dans les restaurants, une partie en école. J'avais envie de ça aussi pour pouvoir voyager. Je me suis toujours dit que le voyage faisait du bien à l'humain, en tout cas, enfin pour ma part, j'avais envie de ça. Du coup, je suis parti en Angleterre 2 ans, après je suis parti en Australie, et du coup, c'était des riches expériences. Et puis je suis retourné en France pour faire la cuisine dans des restaurants en saison. Du coup, j'ai découvert les réseaux militants parisiens. Et puis en sortant de ça, je vais faire ma culture, je me suis un peu renseigné sur les différents réseaux qui voulaient un autre monde. Et du coup, je suis tombé basque avec Alternativa et tout ça, juste avant la COP21. Ça m'a forgé quand même pas mal, parce que c'était un voyage en France, en fait. C'est vrai que ça a bousculé quand même pas mal sur le développement des villages Alternativa partout en France avant la COP21. Cette énergie-là était vraiment incroyable. 60 000 personnes sur la place de la République en 2 jours. Fallait arriver à encaisser le machin. J'ai voulu bifurquer vers le maraîchage parce que je me suis toujours demandé d'où proviennent ces caisses de légumes qui arrivent dans nos cuisines. Et je suis tombé sur la permaculture. J'ai fait un stage de 15 jours. Du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que cette formation-là, elle est vraiment extraordinaire. Ça m'a dirigé vers un chantier de maison en terre paille dans la Vienne. En fait, l'aventure humaine a pris le dessus sur le chantier. Ça m'a fait revenir tous les ans sur ce chantier jusqu'à vraiment être de façon très familière et amicale. Ancré ici avec des amis et je me suis installé là parce que effectivement le foncier était pas cher par rapport à d'autres endroits, mais au-delà de ça la bande d'amis me donnait une garantie sociale qui m'a fait m'implanter là. Alors là, nous sommes à Champagny-Saint-Hilaire, du coup une des montagnes de la Vienne, quasiment 200 mètres d'altitude, si on peut appeler ça comme ça. On reste quand même dans la diagonale du vide. À la base, oui, effectivement, j'ai fait des études de cuisine, cuisine et pâtisserie. Mais là, je suis boulanger, parce qu'à l'issue de ce stage de permaculture en Mayenne, à Terre-de-Vent, on a commencé notre première journée de formation à faire du pain pour créer justement cette dynamique sociale. Et ça a super bien marché. Et là, du coup, de bosser avec des belles farines, faire du pain en levain dans un four à bois, ça m'a vraiment éveillé une petite passion dans l'ombre. Je me suis acheté un petit four Soupart, donc c'est un petit four mobile, on va dire, c'est un gros cylindre en métal et dans lequel on peut cuire du pain. Et du coup, j'ai expérimenté un peu ce truc-là à côté de mon métier de cuisinier. Il y a environ 2 ans et demi, on a appris qu'une boulangerie était fermée et qu'elle avait un magnifique four à bois. La mairie était prête à casser le four pour faire une crèche. Du coup, on a dit qu'on allait débouler avec des copains qui avaient aussi envie de faire du pain. Du coup, on a commencé à 4 et on fait du pain en levain avec des belles farines dans un endroit qui est totalement rénové, loué par la mairie. On est ouvert depuis 1 an et 4 mois. Paye pas encore, toujours dans la philosophie de faire du pain avec des belles farines, dont issues d'un paysan qu'on connaît, au levain, bien sûr, et puis à prix populaire. C'était notre gage de qualité et d'envie. C'est d'arriver à nourrir des gens qui sont habitués à la baguette blanche pas cuite. Alors, redonner le goût du pain dans un milieu rural ou à moins de 1000 habitants. Si rien que le village achetait du pain chez nous, on n'aura pas besoin de faire des marchés. Enfin, on veut bien expliquer ce qu'on fait, mais arriver à éduquer sur l'alimentaire, c'est très compliqué.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots ?
Wow.
Un goût, une couleur, une texture, un son ?
Diversité, admiration, intemporel. Diversité, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on arrivera au bout de connaître les différents êtres vivants. Admiration, parce qu'elle est nécessaire pour arriver à le comprendre et à ne pas le détruire. Intemporel, parce qu'on aura beau s'acharner à le détruire comme des couillons, il va perdurer. Même dans les eaux les plus acides, il y a des crevettes. Le son, ce serait celui des oiseaux qu'on entend actuellement, parce qu'on est un peu dans mon petit quartier retranché sur les terres agricoles qu'on a achetées il y a une quinzaine d'années. Donc ce serait le bruit des oiseaux qui chantent le printemps, qui est bizarrement arrivé un peu tôt. On est quand même fin février, demain, 1er mars. Un goût. Je pense pas aux graines qu'on fait en boulangerie. Graines de lin, courge, tournesol, avec une farine semi-complète de notre ami paysan. Une fois qu'elle a sauté du grille-pain, du coup, avec les graines torréfiées, et c'est vraiment ravissant. C'est un super goût. Une couleur, je dirais l'orange, parce que là, c'est l'orange du soleil couchant qui tombe sur les arbres qui n'ont pas encore débourré, parce qu'effectivement, on est encore en février. Ça commence tout doucement pour certains, mais d'autres non. Et le orange prédomine. Même encore les feuilles qui sont sur les arbres sont orange marron. Vu ce qui se passe un peu dans le monde, je dirais une texture de pain rassis. La base était bonne, ça sent le rassis. Ça casse les dents un peu. Et l'odeur. Sentirait peut-être bien l'odeur d'une pelouse fraîchement taillée. Parce que là, on sent la vigueur des graminées.
Comment intègres-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
J'essaie de travailler malgré tout avec la lenteur, même si je ne suis pas habitué à ça. Quand je suis en extérieur, donc du coup proche du vivant, j'essaie de prendre goût à cette patience, à cette reconnaissance des choses qui prennent le temps. Je suis sur 3 hectares et du coup c'est grand. Et j'essaie juste de remettre le vivant à sa place, même si déjà il se fait très bien tout seul. Alors du coup j'accélère forcément les choses. C'est déjà là en fait. C'est vrai que je le modifie par mes envies, donc du coup c'est pas forcément la direction qu'il prendrait. Et dans un sens, je pense que toute énergie qui est mise dans quelque chose est bonne. Enfin quand elle est consciemment faite. Et avec amour. Je suis sur un terrain qui était complètement en friche il y a environ 15 ans de ça. Du coup, même avec le tracteur et le gyrobroyeur, je ne voyais pas devant moi. J'ai créé un parcours sur ces 3 hectares. Le fait de créer plusieurs parcelles pour que ça puisse y avoir une rotation. Le fait de laisser une partie plus pour les arbres fruitiers, donc hors des animaux, sinon ils vont me les manger. C'est très souvent que je me balade avec une petite chaise que je me pose à différents secteurs du terrain pour le regarder sous de nouveaux angles. Au final, ça me fait avancer de façon douce. Juste laisser le terrain plus vivant et plus accueillant que quand je suis arrivé. C'est mon seul objectif. Et j'ai pas de descendance. Mais si quelqu'un, quand je serai un peu plus vieux, voudrait s'installer ici et prenne goût à ce que j'ai pu implanter, ce sera le meilleur des cadeaux.
Dis-nous, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant?
Ouh. Bah déjà d'être vivant, parce que c'est pas forcément le cas pour tous. D'essayer de prendre le maximum de temps à l'extérieur pour écouter, pour s'écouter aussi en même temps. Il y a une frontière qui s'est créée entre le vivant et l'humain. Je pense que l'apaisement, ce type de réflexion, il viendra si on est émerveillé, si on se rend compte c'est pas qu'on n'est pas grand-chose au milieu de tout ça, c'est qu'on est juste un être au milieu de tout ça et le temps, avec conscience et surtout rester curieux, comme ils disent très souvent sur Arte, parce que ça change tout. Ça change tout, ça nous rend plus fragiles, un peu plus questionnement et il n'y a rien de négatif là-dedans.
On va passer à la question d'actualité. Le prochain épisode Feuilles de Chou portera sur une étude parue en France il y a quelques mois et portant sur les populations d'oiseaux. Elle s'intitule « Faible reprise des populations d'oiseaux insectivores » après l'interdiction des néonicotinoïdes en France, laissant présager des impacts durables. Cette étude fait état d'une petite amélioration des populations d'oiseaux des campagnes en France après l'interdiction en 2018 d'un néonicotinoïde appelé imidacloprides. Afin de comprendre l'évolution des oiseaux des campagnes et le lien entre la disparition de ces derniers avec la disparition des insectes, les chercheurs ont surveillé sur la période 2013-2022 les populations de 57 espèces d'oiseaux insectivores, granivores et généralistes, et ce, sur un peu moins de 2000 parcelles. Toutes ces parcelles agricoles étaient inventoriées avec le taux de néonicotinoïdes et autres pesticides utilisés et ou contenus dans les sols. Les chercheurs ont constaté que la différence d'abondance, de quantité des oiseaux insectivores entre les sites à forte et à faible utilisation d'imidacloprides était légèrement plus marquée avant l'interdiction. Un déclin de 12,7% des oiseaux avant l'interdiction pour 9% après l'interdiction de ce néonicotinoïde. L'étude pointe ainsi l'impact néfaste de ce pesticide bien particulier sur les oiseaux insectivores et souligne que les interdictions de pesticides à elles seules ne garantissent pas une restauration immédiate de la biodiversité. Cela appelle à des actions de conservation supplémentaires dans les paysages contaminés par les néonicotinoïdes afin de restaurer les populations d'insectes et d'oiseaux. On ne peut s'empêcher de penser à l'ouvrage phare d'écologie scientifique rédigé par Rachel Carson, « Le printemps silencieux », comme elle le nommait, représentait l'impact énorme de l'utilisation des produits chimiques et toxiques sur les populations d'oiseaux et sur nous-mêmes. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Moi, je pense qu'ils ont été chercher la bouffe ailleurs. Il n'y en a plus aucun sur les pare-brises. Ça laboure toujours autant. Ça tartine toujours autant. Certes, peut-être les doses ont diminué, mais en même temps, on en retrouve dans le sol. C'est une question délicate parce que c'est un modèle qui fait que du coup, si on continue là-dedans, ça ne s'arrêtera pas. Tomorrow's a new day for everyone. Des copains qui sont installés à faire du maraîchage du coup avec des pratiques sur sol vivant, du coup du non-labour, du non-traitement forcément, donc un respect total du vivant et de ce qui s'y passe. Du coup, malgré le fait qu'on soit sur une terre qui était très compliquée, alors il aurait pu s'installer à d'autres endroits sur le terrain parce que là il s'est mis en bas, on a remarqué que les terres étaient plus fertiles en hauteur. Il s'est mis vraiment en difficulté, enfin je parle de mon collègue Olivier, il s'est mis en difficulté sur le terrain le moins capable de se convertir en maraîchage. Et en 8 ans, en y mettant du sien, du fumet de cheval, de la grelinette, de la bâche certes, mais des fois on n'a pas le choix, sinon il faudrait qu'on soit je sais pas combien à se faire payer pour des légumes à 2€ le kilo. Du coup, et d'autres pratiques sont possibles sans pesticides, sans herbicides, sans fongicides, sans Il y a des pratiques qui se font, il y a des maïs qui montent à 2 mètres sans forcément un intrant. La nurserie là en bas, c'est une serre qu'on a construite sur une réserve d'eau. Du coup, il y avait besoin d'un bassin pour récupérer l'eau des serres. C'est vrai qu'on a eu l'idée astucieuse de les drains se rejoignent vers un bassin de rétention sur lequel on a mis un plancher, sur lequel on a mis une serre. Mais ça devient leur serre à semis, le volume d'eau, donc les 25 mètres cubes qui sont en dessous, sert de tampon et qui sauvegarde de certaines gelées, puis aussi d'un tampon de température, même en été, quand il fait vraiment très chaud. Je suppose que ça absorbe quelques calories quand même de l'air. Et il y a des grenouilles là-dedans, donc pas très peu de moustiques. C'est vrai que les grenouilles sont un peu plus agitées quand on arrive au mois d'août et qu'il n'y a plus grand chose comme flotte là-dedans. Ça reste un endroit qui est super et qui a été bien pensé. C'est une surface au sol qui a été creusée, sur laquelle on a mis une serre. Donc au final, on a gagné de l'espace.
On va passer à l'agenda librairie. Quelle référence ou rendez-vous souhaiterais-tu nous communiquer ?
Peu, mais c'est beaucoup des bouquins entre guillemets ciblés, et là le dernier qui m'a accroché, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant à l'heure d'aujourd'hui d'avoir réussi à implanter des agrumes sur notre territoire. Du coup, je suis pas un passionné non plus, mais je trouve ça vraiment très, très intéressant, parce que moi qui les croyais, bien, on peut les avoir ici. Et du coup, il y a même des variétés qui peuvent aller jusqu'à du moins 20. Donc en fait, c'est possible sur n'importe quel territoire. C'est d'Olivier Bigiot et c'est les agrumes résistants au froid. Bien, on peut avoir aussi des agrumes dans son jardin et qui sont résistants au froid, on va dire. C'est sur le côté racinaire, parce que c'est là où du coup le froid peut endommager l'arbre. Après, c'est vrai qu'il y a un autre bouquin qui me vient en tête, c'est La Révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka, qui est, on va dire, le précurseur de la permaculture dans le monde. C'est celui qui a, c'est un agronome japonais qui a mis en lumière une autre perspective sur l'agriculture et qui est un bouquin non seulement sur l'agronomie, mais extrêmement porté sur la philosophie, notre rapport au vivant et à la terre. Et je pense que c'est une bible. Il remet plein de choses en question. Donc très bien pour l'avenir. Il est possible que ça se passe bien. Mais ça dépend de chacun.
Tu y as pêché où, baobab d'acajou ?
Voici que cet baobab épisode, aux côtés d'un éternel voyageur et cultivateur de forêts, prend fin. La semaine prochaine, nous nous retrouvons dans une nouvelle feuille de chou fraîchement cueillie.
Mais les œufs tremblent être noyés.